on a eu vraiment l'obsession de se dire, ok, l'impact c'est un terme, tout le monde en parle, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis dans une entreprise, je suis dans une collectivité, comment est-ce que je peux aborder ce sujet-là?
Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de La Machine à Sens. J'espère que vous avez passé un très bel été et bien ressourçant. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison du podcast. Avec un nouveau générique, vous l'avez peut-être remarqué, en l'occurrence c'est Empress Groove de Napki, un groupe électronique français que je vous invite à découvrir. Et vous verrez un peu plus tard aussi dans le podcast, il y a un morceau de Caribou, Sun, qui est juste une merveille, je m'en lasserai probablement jamais. Bon, trêve d'introduction. Alors petit rappel, si vous découvrez le podcast ou si les vacances ont le dessus sur vos souvenirs. La Machine à Sens est un podcast 100% dédié aux entreprises à mission. C'est également une newsletter hebdomadaire du même nom. Au micro, je reçois des dirigeants d'entreprise, des managers de mission qui nous expliquent leur motivation, leur cheminement vers l'entreprise à mission et les actions lancées depuis. Mais également des experts et des auteurs qui viennent éclairer un sujet sociétal. Je m'appelle Vivien Pertuzot et j'ai le plaisir d'animer ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Christine Duroux, senior partner chez Kea Partners, cabinet de conseil en stratégie et accessoirement entreprise à mission, mais ça c'était pas fait exprès. Elle a copiloté le dernier rapport du think tank Entreprise et Progrès qui s'intitule « Vers une entreprise à impact, de l'intention à l'action ». Vous retrouverez le lien vers le rapport dans les notes de l'épisode. Dans cet échange, on est revenu sur le contenu de ce rapport, qui a une double vertu, je trouve. Il est concentré et concret. En 10 actes, les auteurs, alimentés de nombreux témoignages, nous proposent un cadre analytique que je trouve riche et pertinent. Christine en détaille le contenu, qui s'intéresse autant aux aspects financiers, c'est même d'ailleurs un des piliers de ce rapport, qu'à la réglementation ou au rôle des entreprises sur les territoires. Peut-être que vous y retrouverez des idées déjà entendues, mais je vous assure qu'il y en a d'autres qui sont plus originales, et surtout, c'est la complémentarité de chacune qui rend ce rapport très utile. Je vous propose de vous laisser porter par Christine dans la découverte de ce rapport, et de finir dans la boue, vous verrez, une nuit d'été pluvieuse en 1969. Avant de commencer, j'en appelle à votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir et écouter les podcasts. Donc déjà, un très très grand merci à vous. Un partage d'encouragement sur les réseaux sociaux, quelques étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify d'ailleurs, ou un commentaire me ferait extrêmement plaisir pour cette rentrée. Et permettrait, par la même occasion, de propager de bonnes ondes vers de nouveaux auditeurs. Merci à vous et sans plus tarder, place à notre échange.
Bonjour Christine.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour répondre aux questions de la Machine à Sens sur le nouveau rapport d'Entreprise et Progrès. Mais avant qu'on arrive à ça, peut-être une petite présentation te concernant et d'Entreprise et Progrès. Donc Christine Duroux, tu es senior partner chez Kea Partners, qui se trouve, et c'était même pas volontaire, être une entreprise à mission depuis 2020, des toutes premières d'ailleurs en France à ma connaissance. Donc Kea Partners, cabinet de conseil en stratégie, et tu es à ton poste depuis 2009, mais tu es une première employée de Kea Partners depuis 2002, et tu es également vice-présidente du think tank Entreprise et Progrès. Entreprise et Progrès, en quelques mots, donc c'est un think tank créé il y a 50 ans cette année par Antoine Ribou et François Dalle, en contrepoint du CNPF, l'ancêtre du MEDEF, avec la logique de promouvoir une vision du capitalisme différente. Donc, au sein d'Entreprise et Progrès, vous vous présentez comme des leaders activistes ou engagés à la recherche de la performance et du bien commun. Donc, dans ce cercle, vous êtes force de proposition avec la publication de rapports, l'organisation de conférences. D'ailleurs, on se voit à la suite d'une conférence ce matin, d'une petite table ronde. Et c'est justement la raison de notre rencontre, puisque tu as été une des principales auteurs du rapport « Vers une entreprise à impact, de l'intention à l'action ». Et là, pour ceux qui n'ont pas forcément le titre sous les yeux, « impact », c'est « imp » avec le petit accent « acte » pour justement passer de l'impact à l'acte.
Ça nous a pris beaucoup de temps pour faire le jeu de mots.
J'imagine. Est-ce que tu as des éléments à ajouter ?
Alors, d'abord, je vais mentionner peut-être mes deux co-présidents de chantier, puisqu'en dans Entreprise et Progrès, tous les travaux sont issus de ce qu'on appelle les chantiers, qui est un fort vilain mot, mais on n'a pas trouvé mieux pour le moment. Et donc, mes deux co-présidents de chantier et co-auteurs, sont Sylvie Borias, qui est directrice RSE et communication corporate du groupe Bell, et Vincent Perrotin, qui est le directeur RSE et secrétaire du comité des parties prenantes du groupe FDJ. Donc je suis aujourd'hui la porte-parole de ce trio qui a co-écrit cet ouvrage.
Pour commencer, je te demanderai à titre personnel, quel aspect retiens-tu du rapport? Parce qu'il est assez dense, c'est un vrai condensé, et surtout, bon, ça a pris quand même pas mal de temps avec les circonstances, on y reviendra. Mais toi, à titre personnel, quel est l'aspect que tu retiens le plus de ce rapport?
L'élément que je retiens le plus sur un sujet qui semblait très très vague au départ, c'est ce qui a émergé comme étant un des points centraux de l'aspect de l'impact, qui est la question de la finance. Et la finance au sens très très large, c'est-à-dire une interrelation très très forte entre, encore une fois, la notion même d'impact, comment on le mesure, etc., et puis la relation avec les directions financières, les financeurs, les actionnaires. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs qu'on a fait un des trois piliers de la question de l'impact, qui franchement au départ était pas du tout dans notre idée en fait.
D'accord. C'est intéressant, on y reviendra effectivement. Est-ce que tu peux nous expliquer les motivations derrière ce rapport? Parce que bon, c'est pas en soi, c'est pas une surprise qu'entreprise et progrès s'intéressent au sujet de l'impact. Mais en revanche, ça s'intègre dans une série de réflexions du think tank. Donc, est-ce que tu peux revenir sur ces sujets-là?
Absolument. Alors déjà, la façon dont on lance les chantiers chez Entreprises et Progrès, on en a environ deux par an. L'année précédente, avant de les lancer, on met plusieurs sujets sur la table, on comex, on en parle, on en discute, on les amende. Donc c'est une réflexion, le choix de travailler sur l'impact était le fruit de réflexion collective. Ensuite, l'année d'avant, donc en 2018-2019, on avait travaillé sur le sujet de la raison d'être. Avec les dix indicateurs de la performance et de la raison d'être, et on s'est dit, une fois qu'on a fait ça peut-être, mais une fois qu'on a fait une raison d'être, ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que ça impacte justement, est-ce que ça a des conséquences sur la façon dont l'entreprise travaille, dont elle agit, etc. Et donc le mot impact a émergé très très vite, avec à la fois un terme extrêmement vague, ce qui est d'ailleurs on s'est dit il faut justement le préciser. Et puis une deuxième obsession qui a été de se dire, ok, donc une fois qu'on dit ce thème vague, qu'est-ce qu'on fait? En fait, il y a une obsession chez Entreprises et Progrès, c'est, sans être trop prescriptif, de donner un peu les clés pour l'action pour les entreprises. C'est très sympa de leur dire, il faut avoir de l'impact, mais une fois qu'on a dit ça, c'est quoi? Et donc on a eu vraiment l'obsession de se dire, ok, l'impact c'est un terme, tout le monde en parle, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis dans une entreprise, je suis dans une collectivité, comment est-ce que je peux aborder ce sujet-là? Donc c'est à la fois une clé de lecture, et puis avec des clés sur l'action. Ce que ça n'est pas, en revanche, très clairement, c'est une directive façon Union européenne. En fait.
Et justement, ce terme d'impact, c'est dans l'introduction, c'est écrit comme tel, hein, c'est un terme protéiforme, et je me souviens, j'avais participé à la conférence qu'Entreprises et Progrès avait organisée lors du Sustainable Leaders Forum il y a un mois et demi, deux mois maintenant, et on sentait déjà qu'il y avait des débats sur le terme d'impact. Comment est-ce que vous avez défini, vous, au sein du groupe, ce terme?
Alors, il n'était pas du tout défini au départ, et je vais dire, le sourire, je pense que ça nous a pris 6 mois avant d'arriver à poser ce que voulait dire le terme d'impact. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, ok, impact, ça veut dire quoi? Et donc, on a commencé à définir des thématiques. Le point d'ancrage, ça a été, ou le point d'entrée plutôt, ça a été de se dire, qui peut intervenir sur le sujet? Et à ce moment-là, on s'est dit, il faut que, sur tous les sujets, on puisse avoir un mélange entre quelqu'un qui est plus théorique ou politique, ou qui soit un peu sur le cadre, hein, et quelqu'un qui est plus praticien, donc plus en entreprise. Et donc après, on s'est dit, ok, donc ça veut dire en termes de politique ou de théorie, c'est quoi les sujets? Et donc on a commencé à dire, impact finance, impact environnement, impact social, impact sociétal. Donc on a vraiment brainstormé, pardonnez-moi du terme, pour essayer de définir toutes les dimensions. Alors on en a eu 20, ensuite on a, voilà, mais on est vraiment parti d'une feuille blanche pour définir ce que voulait dire l'impact. Et puis après on a beaucoup modifié en fonction en fait de ce qui sortait des différents entretiens, puisqu'encore une fois l'idée c'est de s'appuyer quand même sur les nombreux intervenants de nos conférences. Donc on s'est vraiment beaucoup appuyé sur ce qu'ils ont dit.
Et avant qu'on revienne justement sur ce fonctionnement-là, donc là, en termes de positionnement, est-ce que c'est plutôt impact, diminuer les externalités négatives de l'entreprise ou maximiser les externalités positives de l'entreprise?
Alors pour le coup, c'est clairement maximiser l'impact positif des entreprises. Ce qui est ressorti aussi, ce qui n'était pas évident au départ, c'est que au fond, minimiser les impacts négatifs. Je dirais pas que c'est derrière nous, mais il y a aujourd'hui pas mal de normes qui sont en train de se mettre en place. Ça nous intéressait pas tellement de partir là-dessus. Entreprises et progrès, c'est quand même le cercle des leaders activistes. Être activiste, ça veut dire faire changer les choses. Donc on est plutôt sur la maximisation du positif.
Très bien. Sur le contenu du rapport, effectivement, tu parlais des différentes conférences. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la manière dont ça s'est passé? Parce que là, c'est vrai qu'en plus, il y a eu le Covid en plein milieu et la manière dont Entreprises et Progrès formule ses chantiers, enfin, organise ses chantiers, c'est quand même très collaboratif, très interactif.
Alors, ce fut une saga. Très franchement, j'avais pas imaginé forcément. Personne n'avait anticipé le Covid, puisqu'on a commencé à identifier le sujet de l'impact mi-2019. Donc là-dessus, le temps de se dire, ok, qu'est-ce que ça veut dire, comment on le cadre, etc. Est-ce qu'on le fait, est-ce que c'est bien? Donc en fin 2019, on s'est dit, ok, on lance le chantier. Début 2020, donc on a commencé à contacter les intervenants, prévoir un calendrier, etc. Et puis, évidemment, traditionnellement, Entreprises et Progrès dans ses chantiers fait des interventions physiques dans lesquelles il fait venir des gens, dans lesquelles ses adhérents viennent, et ça fait partie en fait du travail du chantier. Ben là, à partir de mars, il a fallu complètement changer notre fusil d'épaule. Donc on a dit qu'on maintenait ce chantier-là, mais on l'a fait, on est passé 100% en virtuel. Donc on a gardé la ligne éditoriale du début du chantier que je mentionnais, qui est sur un certain nombre de thématiques, de mémoire, il y en a 6 ou 7. On a à chaque fois un binôme praticien-théoricien ou politique et entreprise. Ça c'est bon. Donc on l'a gardé jusqu'au bout, mais on est passé entièrement en virtuel. Le petit inconvénient, c'est que c'est vrai qu'au départ, on s'est dit oh là là, ça va intéresser personne. Puis il a fallu quand même garder un peu le moral pendant cette période-là, en 2020, pour le faire. Alors en revanche, il y a deux choses, c'est que d'abord, ça a eu un succès dingue. D'abord parce que le fameux monde d'après, tout d'un coup, l'impact s'est apparu comme étant une thématique très importante. Et ensuite, finalement, la conférence téléphonique de 18h le soir, quand les gens venaient de se faire une journée en Teams et qu'on leur proposait d'aller réfléchir ou d'aller un peu être inspiré, y avait beaucoup de gens qui étaient très contents de l'avoir. Et comme on l'a fait très vite, avant d'être envahi par... parce qu'il y a eu beaucoup de choses comme ça, on a pu monter à des nombres de participants absolument inconnu. Et par ailleurs, si on n'avait pas fait sous forme de webcast, je ne suis pas sûre qu'on aurait pu avoir Pascal Canfin en direct de Bruxelles, Bertrand Badré en direct de New York. Ça nous a aussi permis beaucoup de liberté de ce point de vue-là. La vraie philosophie derrière, c'est de se dire on ne peut pas dissocier l'idée de l'impact de l'idée de stratégie. C'est d'ailleurs la vraie différence entre la minimisation négative qui est plus proche de l'audit par rapport à l'impact qui est plus proche de la stratégie. C'est aussi de dire qu'il faut faire des choix. Et au fond, il faut choisir un domaine d'impact qui est cohérent avec qui on est.
Dans la suite de l'épisode, on revient avec Christine sur les 10 axes de ce rapport. Vous verrez, c'est extrêmement éclairant. Alors, petit détail technique, vous avez peut-être remarqué que le son est un peu différent d'habitude. C'est normal, je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'enregistrais pas sur les bons micros. J'ai corrigé ça et on n'a pas repris tout l'enregistrement. Donc à un moment donné, le son va redevenir très clair, c'est normal, ça vient pas de chez vous, ça vient de chez moi. Je m'en excuse par avance.
Je te propose qu'on passe au contenu du rapport, et notamment sur la structure. Donc on va y revenir parce que c'est organisé donc en 3 axes, avec 10 actes. Et c'est vrai que quand je l'ai lu, je me suis dit, est-ce qu'il y avait la volonté de proposer un cadre d'analyse ?
Je réponds tout de suite, non. L'idée n'était pas un cadre d'analyse parce qu'on ne voulait pas superposer aux normes ISO, ou à la taxonomie, quelque chose d'autre. Donc c'était pas aux normes d'audit extra-financier, donc c'était pas le sujet. En revanche, on voulait essayer d'être précis dans les différentes dimensions. Donc c'est un cadre pour dire qu'est-ce que ça veut dire. C'est un cadre dans la mesure où il y a de la hiérarchisation. Tu l'as mentionné, hein, c'est 3 x 3 de mémoire, un peu classique comme plan, mais ça aide. Hein. En revanche, on n'est pas en train de le dire, une entreprise qui veut avoir de l'impact doit absolument suivre ses 10 impacts, où ils sont tous pareils, ou voilà, on n'est pas dans la norme.
D'accord. Justement, rentrons dans ces différents axes et commençons par le premier, donc qui est intitulé Du moins vers le mieux. Alors, on va pas rentrer dans le détail précis de chacun des actes derrière parce qu'il faut quand même donner envie aussi aux auditeurs d'aller lire le rapport. Mais déjà, globalement, quelle est la philosophie derrière ce premier axe?
Alors justement, comme je disais, la philosophie derrière ce premier acte, c'est qu'on s'est rendu compte assez vite que l'idée n'était pas de suivre une norme RSE, mais vraiment plutôt de se poser la question de en quoi au fond on doit se poser l'action d'impact positif en lien avec la stratégie. Donc en fait, la vraie philosophie derrière, c'est de se dire on ne peut pas dissocier l'idée de l'impact de l'idée de stratégie. C'est d'ailleurs la vraie différence entre la minimisation négative qui est plus proche de l'audit. Et par rapport à l'impact qui est plus proche de la stratégie. C'est aussi de dire il faut faire des choix. Et au fond, il faut choisir un domaine d'impact qui est cohérent avec qui on est. Donc on ne peut pas. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on se contentera de suivre la loi, la norme, etc. En revanche, il y a des domaines sur lesquels on veut faire mieux. Et on veut faire mieux parce qu'on est légitime là-dedans, parce que c'est dans notre stratégie, parce qu'on pense que c'est important. Voilà. Donc c'est vraiment la philosophie qu'il y a derrière. Derrière ce premier chapitre.
D'accord. Donc si on regarde un petit peu les différents actes, alors le premier, j'ai envie de dire, est assez dans la continuité des travaux précédents, hein, puisque c'est aligner votre impact sur votre raison d'être. Donc là, c'est justement, j'imagine, l'idée, on a travaillé sur la raison d'être, maintenant, comment on met la raison d'être en action?
Absolument, et c'était aussi, parce qu'on a un minimum de rigueur intellectuelle, de mettre derrière nous la question de la raison d'être, parce qu'on a mis quand même quelques temps à essayer de dire non, c'est pas la même chose, l'impact et la raison d'être.
Sur l'acte 2, je l'ai trouvé hyper intéressant parce que c'est quelque chose dont on parle, je trouve, trop peu. Et c'est donc choisissez vos combats. Ça commence à, qu'est-ce que tu mets derrière? Comment ça a émergé? Parce qu'on le dit tout le temps, arrêtez de vouloir tout faire tout en même temps parce que ça sert à rien. Mais c'est quand même assez intéressant de l'avoir mentionné si tôt.
On l'a mentionné très tôt parce que ça nous a semblé être un des dilemmes les plus forts et les plus évidents des entreprises en fait. Et ça nous a été d'ailleurs confirmé quand au Sustainable Development Forum, on a fait intervenir Joël Tronchet de L'Oréal, qui en tant que L'Oréal a réagi tout de suite sur ce point-là en disant, mais c'est vrai, on est tout le temps interpellé. Donc on l'a mis en avant et c'est très fort parce que les entreprises sont tout le temps interpellées pour être parfaites partout. Donc elles doivent certainement être parfaites par rapport à la norme. En revanche, nous, ce qu'on dit, c'est on ne peut pas, enfin, une entreprise, c'est fait pour être une entreprise, pas pour sauver le monde. Donc on ne peut pas avoir l'impact positif partout ou alors on n'est plus une entreprise. En revanche, il faut choisir des choses dans lesquelles, en plus, on est complètement légitime. Et c'est ressorti d'ailleurs, pardon, tout simplement des intervenants entreprises qu'on a eues dans ce chantier. Je donne un exemple très précis. On a eu WeCare, qui est une entreprise de service à la personne, dans laquelle il y a 80% du personnel du CARE qui est principalement féminin. WeCare a fait de la question des violences faites aux femmes son cheval de bataille, avec l'ambition de faire mieux sur ce sujet-là. Je pense que si vous êtes là, j'essaie de trouver un bon terme, je vais éviter de mentionner l'entreprise, ça pourrait être mal pris, mais c'est cohérent avec qui ils sont. Ils ont des employés qui sont des femmes qui sont concernées par ce sujet-là. Donc faire ce cheval de bataille-là, la FDJ a choisi d'autres chevaux de bataille, que ce soit sur les territoires, sur les questions d'addiction, d'autres ça va être plutôt la nutrition. Voilà, c'est ce qu'on veut dire par choisissez vos combats. N'essayez pas de saupoudrer plein de choses partout.
Alors, si on passe à l'acte 3, que je trouve assez intéressant aussi, parce que c'est quelque chose dont on parle, mais le fait de le mettre assez tôt aussi est intéressant, c'est de se dire, n'attendez pas la réglementation. En fait, saisissez les opportunités aujourd'hui, parce que, en fait, tout ça va s'accélérer, et tout ça va finalement devenir des pressions et des contraintes supplémentaires sur les entreprises. Est-ce que c'était ça un petit peu l'idée?
Absolument. Ce qui nous a frappé surtout, c'était en 2020 déjà, hein, donc c'était il y a 2 ans, ce qui nous a frappé, c'était en regardant, et j'y reviendrai, mais en particulier tout ce qui est taxonomie, environnement, RSE, on s'est rendu compte que, surtout sur ce sujet-là, ceux qui auraient une longueur d'avance auraient un avantage compétitif absolument incroyable. Les autres allaient courir derrière, juste pour attraper, juste voilà. Donc on s'est dit, mais au fond, il faut vraiment changer de registre et il faut vraiment les anticiper ces réglementations. On n'est pas certain que tous le font. Voilà.
Parfait. Après le dernier acte, alors moi j'y tiens beaucoup à celui-là parce que c'est placer l'innovation au service de son impact, parce qu'en fait on l'oublie parfois le côté innovation, parce qu'on se dit impact, oh là là, c'est faut prendre en compte plein de réglementations, c'est contraignant pour l'entreprise, mais c'est de la saine contrainte, moi c'est comme ça que j'appelle ça. Et donc là, qu'est-ce que vous avez cherché à mettre en avant avec le côté innovation?
Alors ce qu'on a cherché à mettre en avant, sachant que par ailleurs Entreprise et Progrès travaille sur l'innovation, donc on ne voulait pas être redondant, mais on voulait juste mentionner qu'il y avait quand même aujourd'hui une vraie opportunité à innover en partant de l'impact. Et d'ailleurs, on a essayé de formuler ce néologisme qui n'a pas forcément pas été compris, mais auquel je tenais beaucoup, je l'ai beaucoup poussé, la question des impacts natifs. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dizaine d'années, ou quasiment une quinzaine, on parlait beaucoup de, on en parle encore d'ailleurs, hein, les entreprises traditionnelles et puis les entreprises digital natives qui donc avaient la possibilité de penser digital dès le début. Et puis d'ailleurs, et en fait en disant ça, on me dit mais c'est incroyable, ça va être exactement la même question pour les fameux impact natives, des entreprises qui dès aujourd'hui se fondent sur une question d'impact, sur un modèle fondée sur l'impact, mais elles vont amener des idées extrêmement innovantes. Donc il faut vraiment faire ce qui a été fait pour le digital, à savoir se donner les moyens de les copier, voire même de les intégrer et d'investir là-dessus.
Alors passons au deuxième axe, au deuxième chapitre, donc l'impact au cœur d'une nouvelle performance intégrée alliée finance et ESG. Parce que tu l'as mentionné un petit peu tout à l'heure, mais ce chapitre finance est assez clé. Pourquoi justement, alors tu en as un petit peu parlé déjà, mais pourquoi est-ce que c'était si important de mettre en avant la finance comme un élément clé de cette transformation des entreprises ?
En fait, on s'est rendu compte très très vite qu'on ne pouvait pas faire sans, ou plutôt que s'il y avait une divergence entre la question de l'impact, et l'impact positif en particulier, et la question de la performance financière, on passerait sa vie dans les entreprises à réconcilier les deux, ce qui a été historiquement le cas. Donc là, ça a été dire, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Ça a été aidé aussi par le fait que c'est une direction qui a été prise par un de nos membres, Entreprises et Progrès, et qui était aussi coprésident du chantier, à savoir le groupe Bell, dont le directeur administratif et financier est intervenu, et qui venait de changer son organisation en mettant en fait la question de l'impact et de la RSE au sein d'un grand ensemble financier. Donc là, on s'est dit, on n'est pas en train de dire que toutes les entreprises doivent faire ça. Cela dit, on s'est dit, il est en train de se passer quelque chose au niveau des directions financières, bien entendu au niveau des financeurs et de façon générale au niveau de ce qu'on appelle la mesure de la performance.
Ouais, parce que là, en fait, ce qui est intéressant dans ce chapitre, c'est qu'il y a à la fois la partie finance, direction des affaires financières, donc interne, mais également accès aux finances, au financement pour les entreprises.
Absolument. Et une des choses qui est ressortie, vrai ou pas vrai, mais quand même, c'est de se dire, et ça c'est ressorti de nos intervenants, pas quelque chose qu'on avait anticipé, c'est de se dire, à terme, on ne pourra pas lever des capitaux si on n'a pas un minimum d'engagement autour de l'impact, ou si on ne mesure pas l'impact positif ou le non-impact négatif de nos investissements. C'était il y a 2 ans, je pense qu'aujourd'hui avec ce qui se passe avec par exemple les énergéticiens, c'est une question qui est certainement au cœur de l'activité. De l'actualité, pardon.
Je pense effectivement.
Mais il y a 2 ans, ça l'était pas.
Ça l'était beaucoup moins, effectivement. On commençait à. C'était un sujet très très émergent, mais on pensait pas surtout que ça irait aussi vite et que ça deviendrait quelque chose qui s'imposerait presque à toutes les entreprises aussi rapidement. Donc si on regarde un petit peu les différents actes, donc le premier, donc là on est à l'acte 5, donc c'est de conjuguer impact et finance pour une meilleure performance globale. Et donc ça, alors t'en parlais un petit peu avec l'exemple de Bell notamment, mais ça c'est cette notion de performance globale, on en entend quand même de plus en plus parler. Comment est-ce que vous l'avez définie dans le rapport et même dans le groupe?
Alors on n'est pas en train de faire le travail d'auditeur, hein, donc ce qu'on a simplement dit, c'est qu'à un moment donné il faudrait que de toute façon faire marcher de pair ce qu'on appelle le financier et l'extra-financier. Qu'il fallait regarder les deux reportings comme étant partie d'un ensemble global. Donc, pas avoir, par exemple, idéalement, le rapport annuel avec tous les trucs financiers, puis à la fin, bah, tiens, au fait, on a vraiment bien regardé les indicateurs RSE. Donc, partir vraiment sur quelque chose qui était totalement intégrés, y compris dans la réflexion et la communication. Regarder tout ce qui était investissement avec un regard sur l'impact. Donc pas être uniquement, par exemple, sur le TRI, mais engendrer des dires ATRI égal, on va pas dire ou légèrement moins performant, est-ce que l'impact et les externalités, hein, puisqu'on parle de ça, sont supérieurs, et d'en faire aussi un élément de choix.
Et puis ça va bien avec un des actes précédents de ne pas attendre les réglementations, parce que tout ça va aussi petit à petit s'imposer aux entreprises.
Exactement.
Donc là, notamment avec la CSRD l'année prochaine qui va arriver. Passons à l'acte 6, donc, qui est de piloter l'impact au cœur d'une performance globale. Alors c'est assez proche de ce que tu viens de dire, hein, finalement. C'est cette idée qu'il ne faut pas décorréler performance financière et performance extra-financière. Il faut se dire que les deux participent d'un ensemble global.
Non, le point effectivement, c'est un peu ça correspond. Le point là précis, c'était aussi de se dire, paradoxalement, la finance et l'audit a mis en place depuis très longtemps des processus budgétaires extrêmement robustes. Ne réinventons pas la roue, appuyons-nous sur ces processus budgétaires là pour intégrer la notion de pilotage de l'impact. Donc c'était aussi de dire, bien sûr, il y a les deux jambes, mais en plus de ça, prenons appui sur ce qui a marché depuis, alors sûrement pas des siècles, mais enfin quand même déjà pas mal de dizaines d'années, autour du pilotage de la finance, pour piloter aussi l'impact. Donc prenons les bonnes pratiques de la finance, en fait, ce qui est totalement contre-intuitif.
Oui, c'est... effectivement, ouais. Et donc pour faire tout ça, il y a quand même une personne qui est, ou du moins une direction qui est quand même assez clé, et dont on parle finalement trop peu, hein, mine de rien, quand on parle de l'impact, c'est la direction des affaires financières. Et donc ça, il y a un acte dédié à ça, qui est de se dire, en fait, il faut mettre la DAF au cœur de l'impact, comme, et donc l'acte le dit, le noyau de l'impact.
Oui, alors ça, c'est un de mes sujets fétiches depuis déjà 2 ou 3 ans. Ça, c'est très personnel. Il y a de ça donc 2-3 ans, j'avais lu, je ne sais plus où, une réflexion sur l'évolution du rôle de la DAF en se disant, en fait, aujourd'hui, la DAF est devenue trop puissante dans le monde. On lui demande tout, il pilote tout, il pilote des investissements. De toute façon, il n'y a plus de direction de la stratégie. Donc aujourd'hui, on a les CEO et les DAF, et c'est eux qui prennent les décisions, et on n'est pas sûr que ce soit très très bien. Et je crois que cette réflexion-là venait, ça devait être entre le Financial Times et le Wall Street Journal, donc c'était pas exactement des journaux
anticapitalistes. Pas dans l'alternative économique.
Hein, voilà, exactement, où les économistes atterraient. Donc c'était vraiment au cœur de, en se posant la question du pouvoir des DAF, sachant qu'un DAF n'est qu'un un ou une DAF n'est qu'un ou une DAF. Ils ont été éduqués, picousés, pardonnez-moi l'expression, à la performance financière, au TRI, etc., etc. Et donc, ce qu'on se dit, c'est là, bah, finalement, demain, il faut basculer, il faut leur demander aussi de prendre sur eux le fait qu'on mette en place le pilotage correct de l'impact et en faire une responsabilité, ce qui évitera de les mettre en permanence en challenge et au contraire en force de proposition. Parce que quand on dit à quelqu'un, bah, allez-y, aidez-nous à résoudre le problème, tout d'un coup, ça change.
Effectivement.
Alors, on n'est pas en train de dire que c'est le cas, que ça doit être le cas de tout le monde, que c'est possible pour tout le monde, etc. Mais c'est un chemin.
Non, mais c'est un chemin. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a une, alors, je vais pas dire une nouvelle génération de DAF qui arrive, mais c'est vrai que de plus en plus, on sent quand même dans les entreprises que ces enjeux-là sont beaucoup moins éloignés. Ils sont peut-être moins picousés aussi dans leur formation, et
absolument,
que ce soit en formation initiale ou en formation continue, ils sont un peu moins picousés à la performance financière uniquement, et donc prendre en compte d'autres indicateurs devient un peu plus naturel dans un vrai réflexe petit à petit. Alors si on passe au dernier chapitre, donc qui est l'impact au cœur de la relation avec les parties prenantes, agir collectivement. Donc ça, c'est vrai que jusqu'à présent, en fait, on était sur des notions de résultats, d'activité, de l'interne, etc. Mais c'est de se dire aussi, bah, finalement, aujourd'hui, on parle de plus en plus du capitalisme des parties prenantes. J'imagine que c'est un petit peu ça aussi qui a alimenté cette réflexion ici.
Alors oui, absolument, tout en voulant un peu, comme sur toute la question de l'impact, sortir des injonctions un peu vagues et essayer d'être précis. Donc c'est effectivement le sujet du capitalisme des parties prenantes, et on a voulu, dans le cadre de l'impact, vraiment le centrer autour de 3 sujets, non pas qu'il n'y en ait pas d'autres. Mais on s'est dit, soyons le plus précis possible, d'où d'ailleurs les trois actes qu'il y a dessous. Si on s'est dit au fond, il y a la question des collaborateurs. Et d'ailleurs, on vient de finir une conférence avec la Maïf qui a mis des collaborateurs en premier. Donc il y a quand même une question aujourd'hui sur la question de l'impact, qui sont les collaborateurs. Il faut commencer par eux. Dans les années 90, on avait un capitalisme du client. Hein. La mondialisation, ça a été un capitalisme du client. Donc là, c'est passé quand même en partie aussi sur un capitalisme des collaborateurs. Donc ça, c'est question numéro un. On s'est posé la question des territoires. Territoire au sens large du terme, et la question du territoire, que ce soit la ville ou que ce soit pour les entreprises mondialisées, cet impact-là. C'est au fond, une entreprise, elle est quand même assez moyennement virtuelle. Hein. Elle emploie des personnes. Peut-être qu'on l'a fait en 2020, mais on s'est vraiment posé la question des territoires, les territoires réels, les territoires virtuels. Bon, c'est un peu un intello, mais ça nous a bien pris quand tout le monde était derrière son écran. Et puis après, effectivement, on s'est posé la question des écosystèmes.
Alors si on reprend ces différents actes, le premier que je trouve assez osé finalement, qui est de transformer vos collaborateurs en activistes. Et je le trouve assez osé parce que beaucoup pourraient dire « j'ai vraiment pas envie que mes collaborateurs deviennent des activistes parce que sinon à chaque fois que je prends une décision, ils vont venir me dire « mais est-ce que c'est la bonne décision ? Mais est-ce qu'on est suffisamment ambitieux, audacieux, etc. Est-ce qu'on va assez loin ?» C'est quand même assez poussé de dire qu'il faut transformer les collaborateurs en activistes.
Oui, c'est poussé, ça va avec ce qu'on a dit tout à fait au début aussi, c'est quand même de choisir ses combats. Donc l'idée, c'est qu'on ne va pas demander aux collaborateurs d'être activistes sur toutes les choses, mais si on a un combat, si on est engagé sur une cause qui est cohérente par rapport à ce qu'on fait, demander aux collaborateurs d'être activistes dans le sens de cette cause est d'une cohérence absolument totale. Donc l'idée, et d'ailleurs, une entreprise n'est que ce que sont ses collaborateurs. Donc ne pas, à contrario, ne pas transformer ses collaborateurs en activistes du combat que l'on veut mener, là pour le coup, ça veut dire qu'on perd en efficacité et en impact.
Ouais, donc là il y a un vrai enjeu de culture d'entreprise aussi derrière ça. Et je comprends effectivement l'idée. L'acte 9, donc ça parle des territoires, tu l'as évoqué. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que donc bon, je travaille beaucoup sur les entreprises à mission et c'est vrai que quand on regarde les objectifs des entreprises à mission, finalement les enjeux sur les territoires, c'est le parent pauvre des objectifs. C'est beaucoup moins mentionné que les collaborateurs, les clients, les partenaires, etc. Et donc d'où vient cette idée-là de le mettre et de se dire ben non, il faut quand même que les entreprises se préoccupent des territoires.
Alors l'idée, c'était justement parce que c'était le parent pauvre et qu'on faisait le même constat. C'est d'ailleurs un sujet qu'on a à peine effleuré et qui, à mon avis, pourrait faire l'objet d'un chantier complet. C'est aussi la raison pour laquelle on a voulu faire intervenir un politique. En l'occurrence, c'était le maire de Neuilly, Jean-Christophe Fromentin, qui a une vraie réflexion là-dessus, avec évidemment une mairie dans laquelle il y a des entreprises, il y a des gens concernés, qui essaient vraiment de faire bouger les choses, hein, Solani. Et en fait, ce qu'on pense surtout, c'est que c'est très peu abordé parce qu'il y a un angle mort du politique. Il y a un angle mort sur la relation entre l'entreprise et les politiques qui se regarde soit on ne sait pas si entre le chien de faïence et la collusion on a trouvé le bon chemin, mais en tout cas ça reste à faire et nous on est convaincus, encore une fois c'était en 2020, donc peut-être que c'était particulièrement précieux le fait de se dire on se déplace plus, mais enfin on vit quand même dans un endroit, on travaille dans un endroit, quelqu'un qui travaille derrière son écran dans un quartier pour une entreprise qui n'est pas dans ce quartier là ça veut dire quoi en relation au territoire? Et ça nous semble être demain une réflexion à ouvrir. On ne l'a fait qu'effleurer là.
Passons au dernier acte, donc qui est engagez-vous collectivement dans un mouvement impactiviste. Alors c'est pareil, j'aime beaucoup l'idée. Moi je promeux beaucoup cette idée d'entreprise rôle modèle. Donc c'est de se dire là, l'entreprise ne vit pas en vase clos. C'est un peu ça.
Oui, absolument. Alors c'est aussi là un peu un plaidoyer pro domo, entreprise et progrès, on est très engagé, on pense qu'être ensemble c'est plus fort, on essaie de créer un écosystème. Donc c'est aussi le fait de se dire, on peut en parler, puis idéalement ce serait quand même de faire partie d'un mouvement, de donner un peu de son temps, d'essayer de trouver des entreprises qui vont dans la même direction, parce que ça veut dire aussi qu'au quotidien, entre dirigeants et dirigeantes d'entreprise, on peut avoir des doutes, c'est bien échangé, c'est bien, voilà. Donc s'engager dans un mouvement impactiviste, c'est aussi de se dire, à un moment donné, il faut effectivement faire partie de collectifs, quels qu'ils soient, qui seront dans ce sens-là. Juste pour être plus fort ensemble.
Il y a une question que je trouve intéressante aussi, et vous l'abordez dans le rapport, c'est qui doit être à l'origine de tous ces mouvements-là ?
Est-ce que c'est le dirigeant seul? Est-ce que c'est potentiellement les actionnaires? Est-ce que c'est les collaborateurs? Est-ce que c'est un mix de tout ça?
C'est un mix de tout ça. Il est évident que la figure... Je préfère toujours le mot équipe dirigeante que le mot dirigeant. C'est une chose très personnelle. Il est évident que les équipes dirigeantes sont en premier lieu, juste pour faire des choix, pour donner l'impulsion, pour incarner. Il y a une question de chef de file. Maintenant, est-ce que ça doit être personnalisé? Sûrement pas. Il y a aussi des questions beaucoup plus larges. Et il faut impulser. Je pense qu'il y a il y a un cercle vertueux à trouver. Le cercle dirigeant sera aussi valorisé par le fait d'avoir ces combats-là. Et ce cercle dirigeant sera plus visible. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. C'est pas que, entre guillemets, moi je déteste le mot, c'est que de la com. La com, ça sert. Ça sert aussi à embarquer.
Oui, non, mais effectivement, et de toute façon, je pense que de plus en plus, on reprochera davantage à un dirigeant de ne rien faire que de pas bien faire ou pas suffisamment faire.
Absolument.
Alors pour terminer, question plus personnelle par rapport à ce chantier, est-ce que tu pourrais partager le témoignage ou l'échange qui t'a le plus marqué dans le cadre de ce rapport?
Alors un souvenir tout à fait personnel, nous étions au énième reconfinement, je ne sais plus, enfin je me souviens qu'on était derrière un écran, c'était en juin 2020, je ne sais plus, c'était à un moment donné, c'était le chantier qui était sur l'environnement et on avait le témoignage de Gilles Vermeaux-Desroches de Schneider Electric, le débat entre Gilles Vermeaux-Desroches et Pascal Canfin, et c'était direct de Bruxelles et il y avait un vote le soir même sur un des multiples votes sur la taxonomie européenne. Et en fait, on avait Pascal Canfin qui nous disait « De toute façon, là ce soir, on va faire passer des trucs sur la taxonomie et ça va s'imposer ». Et donc je me souviens moi de m'être dit un peu fièrement, on est vraiment là où l'histoire se passe, alors qu'on était tous derrière nos écrans, mais j'avais l'impression d'être au cœur de l'action et c'était assez sympathique.
Oui, j'imagine. Et peut-être pour avant de passer à un instant musical, qu'est-ce que vous voulez faire de ce rapport après? Quel est l'objectif?
L'idée des rapports et des chantiers, des rapports et des livrables entre guillemets, entreprises et projets, d'abord c'est qu'ils durent. Donc typiquement il y a 2-3 ans on avait sorti quelque chose autour de la responsabilité des plateformes qui est toujours d'actualité, donc c'est de le diffuser le plus largement possible, ce podcast en est témoin, le fait de il est accessible sur notre site, hein, sur Entreprises et Progrès, téléchargeable, on veut en parler et on veut surtout qu'il circule, hein. Voilà, qu'il circule, qu'il soit pris, qu'il soit un objet de débat et qu'il serve le plus possible.
Bah très bien, effectivement, rappelons-le, il est accessible gratuitement sur le site d'Entreprises et Progrès. Pour terminer l'instant musical, donc je finis tous les épisodes de podcast par le choix musical de l'invité. Donc visiblement pour toi ça n'a pas du tout été un problème, tu m'as dit. Donc je te laisse donner ton choix et expliquer.
Alors ça n'a pas été un problème parce que j'écoute énormément de musique extrêmement variée. Donc en général je prends la musique du moment parce que si je l'écoute en ce moment c'est qu'il y a une signification. Donc c'est pas ma génération, parce que moi je suis la génération X qui était plutôt en rejet des boomers, hein, mais je suis en ce moment en train de me replonger dans le concert de Woodstock en 69, qui a été quand même enregistré avec des moments incroyables, 500 000 personnes dans un champ de boue, pas de sponsor, pas d'éclairage, pas de marque, rien, pas de crime. 3 ou 4 jours de paix, d'amour et de lumière dans des conditions absolument dantesques. Et le vendredi soir, hein, c'était le début du festival, il y a John Baez, alors que la pluie commençait à tourner à un orage et une pluie diluvienne, qui a chanté We Shall Overcome. Et j'ai trouvé que bah, ça c'était les boomers, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais ils avaient un certain idéalisme, et que se dire que bah, voilà, We Shall Overcome, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est un hymne qui reste toujours d'actualité.
C'est parfait comme choix, très bon choix et puis très bonne explication. Merci beaucoup Christine de cet échange.
Merci à toi.
Et puis comme je le disais, le rapport est disponible sur le site d'Entreprises et Progrès, avec tous les autres rapports également, notamment celui sur la raison d'être. Merci et à ce moment-là, bonne valorisation du rapport.
Merci.
Merci de votre écoute. J'espère que ce nouvel épisode de La Machine à Sens vous aura plu. Alors j'ai une petite faveur à vous demander avant de vous laisser. Si vous avez aimé l'épisode, pourriez-vous s'il vous plaît lui donner quelques étoiles sur Apple ou sur Spotify. Alors, sur Spotify, bizarrement, ça ne fonctionne que sur smartphone. Mais c'est vraiment hyper important pour en améliorer le référencement. Par ailleurs, si vous avez des invités que vous souhaitez me recommander, que ce soit des entreprises ou des experts, ou si vous souhaitez échanger sur la société à mission, retrouvez-moi sur LinkedIn ou sur mon site internet lamachineascence.fr. À bientôt pour un nouvel épisode.